rappeler cette histoire. Petite blague donc qui semble bien résumer l'absurdité de ce conflit entre Palestiniens et Israéliens. Écoutez bien parce qu'elle est vraiment très courte. Alors voilà, un jour, un juif rencontre un autre arabe. C'est tout. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter sur polemix-et-la-voix-off.com avant qu'on se retrouve très bientôt, même lieu, même heure. Salut!
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
À l'heure où je vous parle, ce mercredi 19 mai 2021, les terrasses viennent enfin de réouvrir. La vie se déconfine peu à peu, mais doit encore rester prudente, masquée, à distance les uns des autres, sous peine de rentrer dardard chez nous, le verre vide. Mais le labo, lui, a décidé de se terrer. Les confinements successifs et règles sanitaires qu'on ne comprenait pas toujours très bien nous a quelque peu fatigués. Nous n'avons pas chômé, bien sûr, mais il est vrai que l'envie de profiter du monde extérieur à nouveau nous paraît plus réjouissant que de s'enfermer dans un studio. N'ayant moins aucune inquiétude, nous allons vous laisser entre de très bonnes mains. Saviez-vous que le Labo des Savoirs, ce n'est pas qu'une émission radio. C'est une association étudiante composée de bénévoles qui produisent des émissions, bien sûr, mais aussi d'autres productions comme des podcasts co-créés et coproduits avec des institutions ou d'autres associations étudiantes. Toujours pour parler de science et de ceux et celles qui la font. Parmi ces projets hors émission, l'association nantaise ADBS qui regroupe les doctorants et doctorantes du domaine de la biologie santé s'est alliée avec le labo pour faire parler les personnes qui travaillent autour de ce domaine. Toutes les deux semaines, jusqu'à fin de saison, vous pourrez donc retrouver un portrait de ses membres ainsi que leur interview d'une chercheuse, un ingénieur ou un doctorant qu'elles et ils ont réalisé. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, printemps 2020, toute la France est confinée. Toutes, oui, labo y compris. Mais dans notre mission de toujours vous donner plus de science et de savoir, les bénévoles étaient allés interviewer des faiseurs de curiosités. Lors du premier confinement, des capsules de science avaient été créées et c'est l'occasion, au moment où on se déconfine, de les découvrir à nouveau. Alors, avant de reprendre des forces et de respirer l'air pur, passez encore un peu de temps avec le Labo des Savoirs et ses créations. Aujourd'hui, rencontrez Mylène Fresneau et son invitée Stéphanie Châtel dans ce premier épisode des Scientifiques dans les oreilles, produit par l'association nantaise ADBS et le Labo des Savoirs.
La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Peux-tu te présenter ?
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mylène Fresneau. Je suis en doctorat en biologie santé à l'Institut Thorax à Nantes.
Peux-tu nous préciser comment tu es arrivée sur cette thèse ?
J'ai un parcours un petit peu particulier car j'ai commencé par des études de médecine et lors de mes deuxième et troisième années, j'ai pu valider des options supplémentaires qui m'ont permis d'avoir un Master 1 Sciences et Santé. Et après cette troisième année de médecine, faire une césure pour valider un Master 2 en Biologie Santé. Puis ensuite, j'ai fait une pause un peu plus longue pour avoir un doctorat en biologie. Et après ce doctorat, je reprendrai en quatrième année de médecine.
Pourquoi tu as choisi la recherche? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette...
Ce type de parcours permet d'aller plutôt dans le versant recherche d'abord, c'est-à-dire de comprendre la maladie, et ensuite d'aller plus vers le côté médical, et donc de soigner la pathologie qu'on a compris en recherche.
Et finalement, on se demande maintenant tous ce que tu fais en recherche. Peux-tu nous préciser ton domaine d'étude ?
Je travaille sur les anévrismes intracrâniens. C'est un mot un petit peu barbare pour définir une déformation au niveau des vaisseaux cérébraux. Et moi, je cherche à comprendre pourquoi cette déformation se forme à ce niveau-là.
Merci Mylène pour toutes ces précisions.
Des scientifiques dans les oreilles.
Bonjour Stéphanie, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis Stéphanie Châtel, je suis responsable des affaires scientifiques dans un laboratoire nantais, l'Institut du Thorax. C'est un laboratoire INSERM CNRS Université de Nantes qui travaille essentiellement sur les maladies cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires.
Quel a été ton parcours ?
Alors mon parcours, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait mes études à Nantes en fac de sciences. J'ai fait une première année de fac de médecine comme coup de doctorant. Première année de fac de médecine. Ensuite, je me suis réorientée vers la fac de sciences en biologie. Donc, j'ai fait ma licence et mon master, donc master PBRT. À l'issue de mon master, je me suis réorientée en thèse de génétique. Donc, j'avais fait mon master à l'Institut du Thorax. J'ai choisi de poursuivre en thèse derrière parce que c'était une thématique qui m'intéressait et initialement je souhaitais travailler dans les empreintes génétiques. Donc j'avais choisi ce parcours-là. Donc j'ai fait ma thèse de doctorat en génétique à l'Institut du Thorax et à la fin de ma thèse, j'ai pas souhaité poursuivre une carrière de chercheur, je m'étais plutôt orientée vers tout ce qui était plus relations patients, la clinique, c'était déjà dans ma thèse. Parce qu'en génétique, on a cette dimension familiale, étude de grande famille, de patients, c'est assez proche de la clinique, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai souhaité poursuivre dans cette voie-là, donc j'ai travaillé pendant presque 3 ans au CHU de Nantes en tant que chef de projet translationnel, donc entre les équipes de recherche génétique en cardio et les services de soins. Donc j'avais ça 3 ans, et à l'issue de ces 3 ans, le laboratoire a ouvert un poste de chef de projet pour un projet d'envergure sur l'ensemble du laboratoire, en fait un projet régional qui a été financé par la région, qui s'appelait Vacarme. Donc j'ai été recrutée, j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet, où j'ai fait la coordination et l'aide à la réalisation de ce projet. Et à l'issue de ces 5 ans, j'ai changé de poste et je travaille en tant que responsable des affaires scientifiques pour le laboratoire.
C'est un beau parcours. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la recherche?
J'ai toujours aimé le milieu scientifique, le milieu médical. Ça m'a toujours intéressée depuis que j'étais assez jeune, donc quelque chose qui me plaisait. Ensuite, j'ai suivi le parcours universitaire, hein, classique. Moi, je souhaitais m'orienter vers une thèse, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans les empreintes génétiques. Donc, c'était ça qui me plaisait. Il fallait avoir un doctorat en génétique pour ça. Donc, je me suis orientée là. Et c'est là que j'ai vraiment découvert l'environnement et je me suis vraiment pris d'affection pour ce laboratoire et pour les thématiques qu'on travaillait. Et du coup, j'ai développé le reste de ma carrière dans ce milieu.
Et en quoi consiste ton métier actuel, celui de responsable des affaires scientifiques?
Donc, responsable des affaires scientifiques, c'est pas un métier qu'on retrouve classiquement dans tous les laboratoires. Nous, c'est une structure que le labo a voulu mettre en place parce qu'on est un assez gros laboratoire. On a presque 200 personnes. Donc, qu'on réalise en plus, c'est un service support supplémentaire dans ce laboratoire. L'objectif, c'est vraiment de seconder la direction et les chefs d'équipe et les chercheurs dans la mise en place de la stratégie, dans le suivi de la stratégie scientifique. On a aussi dans le service une personne qui s'occupe du grant management et de la valorisation. Donc c'est vraiment l'aide au montage de projets, la détection des appels d'offres vraiment dédiés, enfin, le conseil et l'accompagnement au plus près des chercheurs, au plus près de leur thématique. Après, il y a un autre volet plus animation scientifique, donc l'organisation des séminaires internes et externes pour la dynamique scientifique du laboratoire. Il y a aussi toute la partie communication scientifique du laboratoire, donc à la fois interne et à la fois externe. Donc tous nos supports de communication interne, comme les news qu'on peut faire régulièrement. On a aussi toute l'animation du site web du laboratoire. L'une des missions, c'est de seconder la direction et les chefs d'équipe dans leur activité au quotidien.
Et as-tu toujours voulu t'orienter dans cette voie, celle d'accompagner les chercheurs, ou ça t'est vraiment venu pendant ta thèse finalement ?
Je sais pas, parce que c'est pas vraiment une voie que j'avais identifiée non plus, hein. Enfin, quand on est étudiant, c'est clairement pas des métiers qu'on connaît et qu'on envisage. Après, je pense que je l'ai découvert au fil de mon expérience, et j'ai identifié des besoins auprès des chercheurs ou des cliniciens et des manques qui pouvaient exister. Et voilà, moi, c'est dans ma nature où j'aime bien faciliter les choses, j'aime bien aider pour que ça avance dans le bon sens, et je me suis bien inscrite dans ce parcours-là, en fait.
Avant ta thèse, tu envisageais le parcours classique chercheur pour encadrer des étudiants, par exemple. Mais après, tu l'as plus du tout envisagé.
Non, je l'ai jamais vraiment envisagé. Enfin, ça faisait partie des options possibles à l'issue d'une thèse, mais naturellement, je me voyais pas dans ce rôle-là, en fait. Je me voyais pas chercheur. Et ce qui me plaisait, c'était vraiment ce côté recherche appliquée, patient, enfin proximité entre la recherche et le retour patient. D'ailleurs, c'était vraiment ça qui m'a plu dans l'aspect de ma thèse en génétique, et c'est ça que j'ai voulu développer. Et finalement, la gestion de projet, l'accompagnement de projet, c'est un métier qui n'existait pas. J'ai soutenu ma thèse il y a une dizaine d'années maintenant. C'est des métiers qui n'existaient pas vraiment, chef de projet dans notre domaine, et ça s'est énormément développé les dernières années. Et c'est un vrai besoin, je pense, que les chercheurs et les cliniciens ont maintenant.
Tu as postulé à une offre en interne au laboratoire, ou c'est...
Pour ce poste-là?
Oui.
Non, c'était pas une offre. En fait, c'est que, au fil des années, quand j'ai travaillé sur Vacarme, c'était un travail qui s'est fait avec l'ensemble des équipes, avec la direction. Donc, on a développé une façon de travailler ensemble, on a développé des outils. Et finalement, on s'est rendu compte que cet accompagnement, il était nécessaire et qu'il était vertueux. Et du coup, ça s'est transformé sur la création d'un poste derrière.
À côté des fonctions que tu assures pour accompagner les chercheurs, tu restes tout de même, toi-même en tant que chercheuse, finalement, impliquée dans des projets de recherche, comme par exemple la génétique des anévrismes intracrâniens. Et c'est facile pour toi d'allier les deux, ou...
Ça fait partie, en partie, de mes missions, si on peut le dire comme ça. Mais voilà, l'histoire des anévrismes intracrâniens que j'ai initiée avec Romain Boursier en 2013, donc à l'époque où j'étais chef de projet, qu'on a monté le projet ensemble, on l'a fait émerger, et c'est un projet qui est majeur et important aujourd'hui pour le laboratoire. Donc cet accompagnement-là, moi, j'ai toujours eu envie de le maintenir, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, que je sais faire, et ça me permet de garder un pied dans la recherche, dans la réflexion, dans la science, et pas que dans la gestion et dans l'administration des laboratoires. Après, il faut jongler entre plusieurs missions, hein. C'est un peu le... Je suis couteau suisse.
T'as un métier prenant avec beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est difficile d'équilibrer vie professionnelle, vie privée ?
Non, après, tout se fait petit à petit, hein. Y a rien qui arrive d'un coup comme ça. Donc tout se fait. J'ai deux enfants, je suis mariée, j'habite pas à Nantes, même assez loin de Nantes, et tout arrive à se conjuguer. Après, c'est une organisation, hein. Je dis pas que le travail déborde pas à la maison des fois, mais voilà, enfin, moi j'aime ce que je fais et je le fais par plaisir, donc c'est pas une contrainte.
Et dans tout ton parcours, tu es restée sur la thématique génétique des maladies cardiovasculaires. Pourquoi une telle thématique ?
Parce qu'à l'époque à Nantes, donc moi j'ai fait mon master en 2006-2007. À l'époque, il y avait pas énormément de laboratoires qui faisaient de la génétique. J'étais pas spécialement mobile non plus à ce moment-là de ma vie. Du coup, je suis arrivée via la fac de sciences. En fait, hein, mon enseignant qui était Pierre Paco à l'époque, qui travaillait à l'Institut du thorax aussi, qui était c'est le point d'entrée pour nous les étudiants, m'avait dit viens dans notre laboratoire chez Jean-Jacques Schott, il fait de la génétique, ça pourrait t'intéresser. Donc ça a été mon point d'entrée, j'ai rencontré Jean-Jacques, ça l'a fait, j'ai fait mon master 1 avec lui, puis finalement master 2, puis ma thèse, et puis on continue encore à travailler ensemble aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui te plaît dans la recherche, et surtout dans ton métier particulièrement ?
Ce qui me plaît, c'est qu'on interagit avec énormément de gens qui ont des cursus différents, des expériences, des disciplines différentes, ça, c'est très enrichissant. Enfin, on a la chance de travailler avec des gens brillants, et qui nous apprennent beaucoup. Enfin, ça, je trouve ça, moi, très, très valorisant dans nos activités. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en plus, on travaille dans un domaine qui a un réel impact. Enfin, on a un impact sur la société, sur le soin. On sait pourquoi on fait ce travail-là et qu'il y aura un retour vers le patient à plus ou moins long terme, mais il y aura un retour. Oui.
Merci Stéphanie d'avoir répondu à nos questions.
Je t'en prie, je te remercie aussi de m'avoir interviewée. C'est un plaisir.
Au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs après Cosmica Italiana de Lorenzo Moresi et Tender Lonius. On enchaîne sur un premier capsule de science réalisé par Maxime Labatte pendant le premier confinement sur les mystérieux sélacantes.
Rohan Mansuy dans le Labo des Savoirs. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, vous êtes en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Dans quel laboratoire vous êtes ?
Alors moi, je suis dans deux laboratoires au Muséum. Je suis principalement affilié au laboratoire du CR2P, le Centre de Recherche de Paléontologie de Paris, et également au centre à MECADEV, Mécanisme adaptatif de l'évolution.
Et quel est le sujet de votre thèse là, sur lequel vous travaillez en ce moment ?
Moi, je travaille sur le sélacanthe, sur la sortie des os des vertébrés en général. Et je m'intéresse plus particulièrement sur l'évolution des nageoires et des nageoires pectorales et pelviennes du sélacanthe, la musculature et le squelette.
Alors pour les passionnés de biologie, bien sûr, tout le monde a fait oh, c'est la corne, trop bien. Alors, pour ceux qui sont moins au courant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce poisson? Alors ça fait partie des grands mythes de la biologie parce que ça a été découvert finalement assez récemment, ou en tout cas découvert par les biologistes européens assez récemment.
Ouais, c'est ça, c'est le sélacanthe, c'est on va faire de façon grossière, on va dire c'est un poisson qui nous est plus apparenté qu'il ne l'est des autres poissons. C'est-à-dire qu'il partage plus de points communs avec nous qu'il partage avec la truite, par exemple. Et un des caractères qui font que le sélacanthe nous est plus apparenté, c'est par exemple le squelette de ses nageoires. Parce que chez les poissons, en général, on a les rayons des nageoires qui s'insèrent directement à la base du corps. Alors que chez le sélacanthe, tout comme chez nous, il y a différents os le long de la nageoire qui sont similaires à l'humérus, radius, etc., et qui font ce qu'on appelle une nageoire musculeuse ou une nageoire lobée. Et les rayons s'insèrent tout au bout.
Pour que les gens puissent visualiser un petit peu aussi, donc il y a ces nageoires assez impressionnantes à la base, on va peut-être y revenir. La taille que fait ce poisson à peu près?
Le sélacanthe, il fait entre 1m30 et 2m à l'âge adulte, sachant que les plus gros spécimens qu'on a trouvés, c'est des femelles à chaque fois, celles qui atteignent quasiment 2 mètres. Les mâles sont en général plus petits.
Ouais, donc c'est quand même très gros.
Grosse bestiole qui peut atteindre les 60-70 kilos.
Alors la première fois qu'elle a été observée, c'était pendant le XXe siècle et c'était dans les Comores. Qu'est-ce qui fait que ça a été si peu observé?
Bah, à part les Européens, les Occidentaux, c'était vraiment pas connu avant, c'est sûr. Mais pour les personnes qui habitent aux Comores, à Madagascar, Afrique du Sud, les populations locales connaissaient quand même déjà un peu le sélacanthe parce qu'ils le pêchaient de temps en temps. Mais comme c'est un poisson qui n'a aucun intérêt au niveau alimentaire, ils le rejetaient à chaque fois.
C'est pas bon?
Apparemment, c'est dégueulasse.
Ah oui. Très bien. Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour eux. Aussi, pourquoi on a eu beaucoup de mal à l'observer, nous les Européens, avant qu'il soit observé par hasard sur un étal de poissonniers? C'est parce que le sélacanthe, il vit profondément sous l'eau. Le plus haut où il remonte, c'est 50 mètres de profondeur et c'est juste à une zone en Afrique du Sud. Sinon, en général, c'est entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et c'est aussi un animal qui vit principalement la nuit. Le jour, il dort dans des cavernes souterraines. Et c'est la nuit où il sort pour aller chasser. Et en plus, en général, quand il va chasser, il plonge pour aller chercher sa nourriture. Donc là, on pense qu'il peut descendre à 200, 300, 400, voire 800 mètres de profondeur. Tout ça, ça fait que c'est difficile à observer. Et comme en plus, il aime vivre dans des endroits où, dans des zones où il y a des grottes, c'est souvent des zones très en pente où les chaluts ne peuvent pas aller. Donc les filets, tout ça, on n'a jamais pu les capturer dans des filets.
Alors paradoxalement, c'est un animal des grands fonds, donc qui vit vraiment au large, dans les grandes profondeurs. Et en même temps, c'est le modèle le plus proche qu'on a des parents des vertébrés qui sont sortis des eaux. Alors c'est à peu près à quel moment de l'histoire du vivant que s'est passé cet événement historique? Et c'est quoi le rapport avec le sélacanthe? Parce que c'était il y a des millions d'années et son mode de vie n'est pas lié à... au fait de sortir à l'extérieur de l'eau?
Alors, la sortie des eaux des vertébrés, ça s'est passé au Dévonien, donc il y a 320 millions d'années à peu près. Le sélacanthe, pourquoi on l'utilise principalement? C'est pas notre plus proche parent chez les autres animaux. Il y a aussi les dipneus qui nous sont encore plus apparentés.
Mais chez eux, les animaux marins?
En fait, le dipneus... Le dipneus n'est pas marin, il est aquatique, mais il vit dans les eaux douces. C'est une des raisons pour lesquelles le sélacanthe est plus considéré comme un modèle pour étudier la sortie des eaux des vertébrés. C'est parce qu'on suppose que la sortie des eaux des vertébrés, ce n'est pas faite par les rivières, mais c'est faite directement des océans au continent. Et comme le sélacanthe est un animal marin, c'est pour ça qu'on pense que ça peut... Il peut nous donner déjà plus d'informations que le dipneus.
Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le dipneus, lui, ce n'est pas ses nageoires qui sont particulièrement proches de la formation de notre bras, mais c'est plutôt leur système respiratoire, non? Et d'une certaine manière, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Le système respiratoire des sélacanthes est assez spécial aussi.
Le dipneus, il a un système respiratoire double, avec à la fois des branchies et des poumons qui lui permettent de respirer à l'air libre. Et pour certaines espèces, Neoceratodus, par exemple... Le sélacanthe australien, il peut carrément vivre pendant la période sèche. Il se fait un cocon dans la vase et il ne respire qu'avec l'air.
Le dipneus australien, c'est ça? Wow.
Ouais. Et il y a certains dipneus aussi, si on les laisse uniquement dans l'eau, on les empêche de revenir à la surface, ils sont incapables de respirer. Il faut qu'ils aient la respiration double, branchiale et pulmonaire. Et le coelacanthe aussi, il a des branchies, des grosses branchies, mais il a également, le coelacanthe actuel, un poumon qu'on appelle vestigial, qui n'est absolument pas fonctionnel. Mais il y a une étude assez récente, 2015, si je me souviens bien, qui a étudié le développement du poumon chez le coelacanthe, grâce à des embryons et au coelacanthe adulte, et qui a comparé avec des données fossiles. Et ces données laissent suggérer que les coelacanthes, d'autres espèces de coelacanthes en tout cas, il y a 300 millions d'années, 400 millions d'années, avaient un poumon fonctionnel et étaient capables d'avoir la respiration double, tout comme le coelacanthe, tout comme le dipneus.
Oui, parce que finalement, le coelacanthe, on appelle souvent ça un fossile vivant, mais en fait, parce qu'il faisait partie d'une famille qui était extrêmement diversifiée et qu'il n'y a plus qu'une seule espèce qui est en vie maintenant. Et malheureusement pour vous, pour l'étudier, elle est dans les grandes profondeurs et pas dans les rivières comme ont pu l'être d'autres de ses cousins. Comment vous faites pour travailler vraiment sur le mouvement? Parce que du coup, on a compris que vous, votre laboratoire s'intéresse vraiment aussi à la partie biomécanique, donc comment il déplace toutes ses nageoires. Vraiment, allez voir, si vous n'avez jamais vu des images de coelacanthes en mouvement, c'est incroyable, il y a énormément de nageoires qui bougent dans plein de directions différentes. Comment vous faites? Vous avez très peu d'images, et puis vous pouvez pas avoir un bassin dans lequel vous pouvez mettre en 3D le mouvement du coelacanthe. Alors comment on fait pour travailler sur ce mouvement?
Alors c'est vrai que le coelacanthe, on peut pas l'avoir en aquarium. Enfin, c'est le coelacanthe, quand il a été pêché et remonté à la surface, du fait d'une grosse un changement de pression.
Ouais. Il n'a pas fait de palier de décompression.
C'est ça. Et surtout, l'effort énorme que le coelacanthe déploie pour ne pas être remonté à la surface. En général, même quand on le remet dans l'eau après, il meurt rapidement en moins de 24 heures parce qu'il a épuisé toutes ses ressources, il est complètement mort. Mmh. Et c'est pareil, si on le met dans un aquarium, il ne survivra pas. Et en plus, on ne connaît absolument pas tout ce qu'il lui faut, tout ce qui lui est nécessaire au coelacanthe. Quelle est sa nourriture exacte, quelle est la pression qu'il doit supporter, etc. Donc, on ne peut pas étudier in vitro en laboratoire. Mmh. Mais en 2013, il y a une expédition qui a été faite par le muséum avec Gaël Clément, Marc Herbin. Bah, le muséum est parti avec Laurent Balesta en Afrique du Sud pour filmer en profondeur le coelacanthe. Et ils avaient monté en même temps un dispositif particulier qui permettait... Il y avait deux caméras, une qui regardait par-dessus, une latérale, qui était montée sur une girafe, et qui a permis de filmer en vue latérale, en vue dorsale, le coelacanthe et le mouvement de ses nageoires. Et il y a également d'autres vidéos qui ont été faites juste avec une simple caméra. Mais toutes ces données, on a énormément de vidéos sur le coelacanthe quand il nage, et tout ça, ça peut être utilisé pour étudier sa locomotion, la coordination de ses différentes nageoires. Parce que oui, le coelacanthe, il n'a pas que nageoires pectorales et pelviennes qui interviennent dans sa locomotion. Il y a aussi deux nageoires anale et la seconde dorsale qui ont exactement la même morphologie que les nageoires pectorales et pelviennes et qui interviennent dans sa locomotion. C'est même principalement elles qui propulse l'animal le long quand il nage. Les nageoires pectorales et pelviennes, elles interviennent principalement pour se diriger, se stabiliser.
Alors quand il nage ou aussi quand il se déplace dans les grottes, parce que vous disiez qu'il est vraiment sur le tombant vraiment de la pente abyssale, est-ce qu'il se déplace lui aussi en raclant un petit peu le fond ou vraiment lui, il a tendance à jamais toucher vraiment le...
En général, il touche pas, c'est... Les seuls moments, les plongeurs, ils nous ont dit, les seuls moments où ils ont vu le coelacanthe qui pouvait toucher le fond ou le bout d'une caverne, c'est des fois quand ils voyaient un plongeur qu'ils étaient un peu effrayés. Mm-hmm. Sinon, ils sont tout le temps, ils sont assez proches du fond quand même, ou des bords, qui peuvent être à 20 cm, un truc comme ça, mais ils ne touchent pas.
Ouais, mais j'imagine que pour vous, faire le rapport entre la sortie des eaux et les modes de déplacement des coelacanthes, ça aurait été pratique s'ils touchaient vraiment le... Là vous commencez à voir un petit peu, à force d'étudier le mouvement des coelacanthes, vous commencez à percevoir un petit peu ce qu'a pu être la sortie au moment du dévonien des vertébrés.
C'est un peu compliqué, mais nous, en tout cas, en étudiant la locomotion du coelacanthe, on s'intéresse principalement à la coordination des nageoires entre nageoires pectorales pelviennes, et il y a certains patterns qui rappellent le mouvement à certaines allures des premiers tétrapodes, des salamandres, même des chevaux, tout ça. On reconnaît quelques schémas de coordination. c'est une chose qu'il n'y a pas forcément chez les autres poissons comme la truite, ça, qui eux utilisent principalement pour se déplacer leur nageoire caudale. Le sélacanthe utilise aussi cette nageoire caudale, mais en tout cas la coordination des nageoires pectorales pelviennes peut rappeler les tétrapodes. Pour la sortie des eaux, il y a une hypothèse qui dit que lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu un changement dans la dominance du membre qui permettait la locomotion. On présume qu'avant, c'était principalement les nageoires pectorales qui faisaient le gros de la propulsion. Et lors de la sortie des eaux des vertébrés, il y a eu une augmentation plus importante, on va dire, des membres pelviens. Et ce sont eux qui auraient permis de plus propulser le corps après. Donc là, ça sera plus des données musculaires, tout ça, qui peuvent aussi nous donner des infos là-dessus. Je suis encore en train de travailler dessus, donc je ne peux pas dire. Mais apparemment, le sélacanthe peut également nous donner des informations là-dessus. Donc on peut faire des dissections dessus sur un spécimen. Donc ça peut nous apporter des trucs.
Bah, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on pourra faire une émission entière sur le sélacanthe. Une fois qu'on aura de nouveau le droit de sortir de chez nous, comme le sélacanthe aura le droit de sortir des eaux un jour, peut-être.
Peut-être.
À bientôt, j'espère.
À bientôt.
Yeah.
êtes au Labo des Savoirs.
A1, Wake Up feat. Caleta par Bosque pour introduire la dernière partie de cette émission avec le capsule de science de Valentin Brochet qui nous parle de quoi ? De céphalopodes, bien sûr.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Valentin.
Tu es doctorant, je ne dirais pas immigré à l'Institut Max Planck de Francfort puisque tu as beaucoup voyagé au cours de tes études et tu travailles sur le développement d'outils génétiques chez les céphalopodes, alliant génétique, embryologie et même éthologie. Alors comment expliquer ce travail de thèse ? Tu cherches en quelque sorte à faire muter des poulpes ?
Ouais, c'est un peu ça, créer des kraken transgéniques mutants. Non, en vrai, c'est beaucoup, beaucoup moins science-fiction que ça. Aujourd'hui, on utilise CRISPR-Cas9, qui est une enzyme qui permet de faire de la transgénie, des modifications génétiques chez des organismes en laboratoire. Et cet outil n'a jamais encore été utilisé chez les céphalopodes. Les céphalopodes qui sont en train un peu de se développer comme un nouveau modèle pour les neurosciences et pour la génétique ces dernières années, depuis 2015, quand le premier génome est sorti. Et depuis 2015, du coup, il y a cette envie grandissante de vouloir développer un modèle génétique et de vouloir créer des lignes transgéniques, dans ce cas-ci avec l'outil génétique CRISPR, chez les céphalopodes, puisque ça n'a jamais été fait avant. Donc voilà mon projet de thèse. Et bien sûr, le tout orienté vers les neurosciences. Donc l'idée est de créer des lignes transgéniques qui exprimeraient des protéines fluorescentes dans le cerveau pour pouvoir tout simplement suivre l'activité neuronale dans le cerveau des céphalopodes.
Alors cette protéine CRISPR-Cas9 est une petite révolution dans la biologie moléculaire. Elle apporte avec elle beaucoup de perspectives, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail ?
Oui, bien sûr. Alors, CRISPR-Cas9 est une protéine d'origine bactérienne qui a été, peut-être que je me trompe sur les dates, mais environ qui a été découverte aux alentours de 2012, je crois. Et c'est une enzyme, donc c'est une protéine qui a un rôle dans le système immunitaire de certaines bactéries contre les virus. Cette enzyme permet de couper. C'est essentiellement des ciseaux moléculaires qui permettent de couper des doubles brins d'ADN. Et si on donne à cette enzyme un guide ARN, qui va lui servir essentiellement de pancarte, comment on appelle ça, des affiches morts ou vifs, comme dans les westerns, on lui donne un guide ARN qui va lui permettre d'aller reconnaître certaines zones d'ADN et de le couper directement. Cette coupure va permettre de créer des mutations puisque le système de réparation de l'ADN dans les cellules n'est pas parfait, ce qui fait que ça crée des mutations, il y a des bases qui sautent ou bien il y a des insertions et ça permet de désactiver des gènes. On peut aussi utiliser cette coupure pour faire une insertion d'un gène qui n'était pas originellement présent dans le génome, c'est alors qu'on fait de la transgénie.
Une protéine couteau suisse, visiblement. Je l'ai dit en introduction, mais tu as beaucoup bougé pour tes études. Pour les jeunes biologistes qui nous écoutent peut-être, est-ce que tu peux retracer ton parcours ?
Oui, bien sûr. Pour ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai commencé à Nice avec une licence en biologie orientée un petit peu écosystème. Ensuite, en première année de master, j'avais très envie d'étudier le plancton à l'époque. Ça a bien changé, tout là. Mais je voulais étudier le plancton. Je suis parti à Marseille, à l'Institut PTS, Observatoire des sciences de l'univers à Marseille. Et j'ai fait une année d'océanographie. Je ne me suis pas trop retrouvé dans les maths, la chimie et la physique des océans. Et du coup, après ma première année, je suis retourné à Nice pour faire ma deuxième année de master en biologie plus pure, hein, biologie des écosystèmes et biologie marine. C'est en deuxième année que pour mon stage, je suis parti aux États-Unis. J'avais beaucoup envie d'aller faire même ma vraie première expérience à l'étranger et j'ai eu la possibilité d'aller à Woods Hole dans le Massachusetts au laboratoire qui s'appelle Marine Biological Laboratory. Et là, j'ai fait pour la première fois l'expérience de travailler avec des céphalopodes et de travailler avec l'outil génétique CRISPR. Ensuite, j'ai voulu continuer avec une thèse sur le même sujet, mais en changeant d'espèces, parce qu'à l'époque je travaillais sur le calmar pygmée, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a comme des avantages que son cycle de vie n'est pas clôturé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en laboratoire avoir plusieurs et plusieurs générations d'animaux. Du coup, j'ai postulé pour différentes offres de doctorat et je voulais atterrir en Europe. J'avais un petit peu assez de partir loin. Je suis très intéressé par avoir des chocs culturels et tout, mais je sentais que je voulais quand même revenir en Europe et je suis arrivé en Allemagne, à Francfort sur le Main. C'est ici que au Max Planck for Brain Research que je fais mon doctorat, justement sur la même thématique du coup, mais cette fois-ci sur la sépiole colibri, qui a l'avantage que l'on peut la maintenir en laboratoire sur plusieurs générations, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le calmar pygmée de mon stage de master.
Ouais, et en plus cette petite sépiole est vraiment très mignonne. Un assez long parcours effectivement, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre cela et plus particulièrement à te pencher sur ce champ de recherche ?
Ce qui m'a poussé à me déplacer, c'est parce que déjà je sais que l'anglais est très très important dans la recherche. Je ne pensais pas avoir un très mauvais niveau d'anglais, mais c'est sûr que partir 6 mois à l'étranger dans un pays anglophone, ça allait beaucoup m'aider. Ensuite, je voulais vraiment me créer des opportunités et je savais qu'un laboratoire comme celui de Woodsall était un hotspot pour la recherche. Et je pense, et je suis convaincu même aujourd'hui, que le networking, se faire un réseau dans la recherche est très 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 important. Pas nécessairement pour le pistonnage, mais pour le fait de connaître plusieurs personnes et ce qui permet d'avoir plus d'opportunités. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire et puis j'aime bien le dépaysement et je n'avais pas vraiment eu l'occasion de rester beaucoup aux États-Unis ni dans la zone du Massachusetts avant. Donc c'était une chouette opportunité pour moi et c'est pour ça que je suis parti là-bas. Ensuite, c'est difficile pour moi de dire que je suis très intéressé à un champ de recherche plutôt qu'à un autre. J'ai commencé à travailler sur les céphalopodes et pour moi, travailler sur les céphalopodes, c'était une suite logique d'un développement personnel. Pendant longtemps, je m'étais questionné qu'est-ce que je voulais faire dans la recherche, qu'est-ce qui m'intéressait et quelle était ma passion, si je voulais plutôt travailler sur le comportement, sur un aspect plus neurosciences, si je voulais travailler plus avec des sciences écologiques ou faire de la génétique. Et travailler avec les céphalopodes, ça m'a permis de faire tout ça en même temps. Je n'ai pas vraiment dû choisir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez ce type d'organisme. Et en plus de cela, j'ai un petit penchant pour l'art, pour le dessin et la peinture. Et travailler avec des céphalopodes qui ont des caractéristiques qui sont très extraterrestres, qui peuvent changer de couleur et de forme en une fraction de seconde, c'est très fascinant pour quelqu'un qui a un peu l'œil artistique. Et pour moi, les céphalopodes, ça me permettait de travailler sur les céphalopodes. Ça me permettait de ne pas vraiment avoir à choisir parmi toutes ces différentes passions et de pouvoir les unir tous ensemble au sein d'un même projet qui est, par exemple, mon projet de thèse.
Ben justement, revenons sur ta thèse et en m'excusant par avance pour cette question, quelles sont les perspectives qu'offrent tes travaux de recherche pour toi, doctorant, et même pour l'humanité tout entière ?
Pour moi, le mot qui caractérise un peu mes perspectives par rapport à mon doctorat ou comment est-ce que je peux contribuer de façon positive à la société avec un projet comme le mien, c'est principalement une question de curiosité. Travailler dans la recherche et finalement, après tout mon parcours, avoir l'opportunité de faire un doctorat, où je vais pour la première fois vraiment rentrer en terrain inconnu et découvrir des choses qui n'ont pas été découvertes avant ou développer des outils qui n'ont jamais été développés avant, ça me plaît énormément parce que d'un côté, pour moi, ça veut dire que ma curiosité m'amène quelque part et que je fais des découvertes qui n'ont jamais été faites avant. Et pour moi, c'est très important d'un point de vue personnel et de développement personnel de pouvoir apporter et découvrir de nouvelles choses. Et puis d'un point de vue de la société, je pense que c'est très important d'agrandir les connaissances que l'on a sur la nature. Et souvent on me pose la question, mes parents des fois ça arrive qu'ils me demandent, ou des gens que je rencontre dans la rue, pas au pif, hein, c'est des gens que je connais, en quoi est-ce que je fais va aider la condition humaine. Et c'est sûr que ce que je fais n'a pas vraiment d'application directe. Et en général, c'est un peu le cas pour la recherche de base, la recherche fondamentale. Et c'est ce que je fais. Je ne fais pas de la recherche appliquée. Donc, ce que je fais, c'est qu'il y a une certaine curiosité qui me pousse à vouloir comprendre et découvrir certaines choses sans nécessairement avoir dans la tête l'idée de pouvoir appliquer ça directement à l'homme ou à des conditions physiques, des problèmes des maladies génétiques. Ce n'est pas nécessairement ce que je veux, la direction dans laquelle je veux aller. Par contre, pour moi, développer ses connaissances et comprendre comment la nature fonctionne est tout aussi important, est une valeur qui est tout aussi importante que celle d'aller appliquer une nouvelle technique directement sur l'homme. Donc je pense que ce que je fais à travers ma recherche n'a pas d'application directe, mais va permettre de découvrir des choses qui pourront optimiser ou améliorer des techniques qui sont déjà actuelles. Si on prend CRISPR-Cas9, par exemple, CRISPR-Cas9, on ne l'a pas trouvé parce qu'on voulait trouver un outil qui allait permettre d'éradiquer des maladies génétiques. On l'a trouvé parce que c'était un projet de recherche qui, par simple curiosité, est tombé dessus. Et ce que nous, on fait, c'est ce que moi, je fais à travers mon projet et beaucoup d'autres personnes dans la recherche fondamentale, c'est qu'on se promène dans le noir et on découvre de nouvelles choses. Et des fois, ces choses sont positives. Très souvent, ça n'amène pas à grand-chose, mais quand ça amène à quelque chose, des fois, ça peut avoir des effets révolutionnaires aussi au niveau de la société, au niveau de la condition humaine, etc. C'est un peu ça, la recherche. Et c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va et ce qu'on va trouver. Donc, voilà.
Eh bien, très inspirant comme réponse. Ça nous amène à penser que la curiosité est le moteur principal de la recherche, finalement. Et pour faire naître cette curiosité, il faut savoir que tu n'es pas seulement Mathieu Renard, tu es aussi connu sur la toile comme le docteur Nemo, un tout nouveau vulgarisateur scientifique. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quel est le projet derrière cette nouvelle chaîne YouTube?
Oui, bien sûr. Ça fait environ 2 ans que j'utilise les réseaux sociaux pour faire de la communication scientifique, sous un autre pseudonyme d'ailleurs, Krakenologie, donc les sciences des Kraken, où j'essaie de parler un peu de céphalopodes. J'ai fait ça sur Instagram, je fais toujours ça sur Instagram, sur Twitter et Facebook. Et j'aime beaucoup les sciences, j'aime bien ce que je fais en sciences, mais j'aime bien aussi partager ce que je découvre et surtout partager avec des jeunes esprits, des lycéens, des collégiens, etc. On a eu cette année quelques lycéens qui sont venus au laboratoire et j'ai fait des ateliers avec eux et ça m'a beaucoup plu. Donc, et cet aspect un peu de transmettre les connaissances et la passion pour la découverte qui me fascine. Ça fait quelque temps que j'essaie de lancer ça sur les réseaux sociaux, mais je me suis toujours senti limité par le format d'Instagram ou surtout de Twitter, mais aussi de Facebook. Et je me suis dit, faudrait peut-être que j'essaie YouTube. Et faire une chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très très longtemps. Et ces derniers temps, avec le confinement, j'ai eu un petit peu plus de temps. J'ai assemblé du matériel et je me suis mis devant ma caméra et j'ai commencé à parler et j'ai commencé à imaginer qu'il pouvait être le projet d'une chaîne YouTube. C'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir de l'originalité sur Internet ou de parler de choses dont d'autres personnes n'ont pas déjà parlé. Donc pour moi, l'idée, ça va être de parler de beaucoup de choses, mais principalement de céphalopodes. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Internet qui ont déjà parlé de céphalopodes en détail et avec des détails scientifiques. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que j'aimerais bien faire sur ma chaîne. En parallèle de ça, j'ai aussi l'intention de faire de la musique, parce que je suis aussi un musicien, à faire de la musique sur les sciences. Et j'aimerais aussi faire de l'animation. Donc je fais beaucoup de choses. Et je me dis, j'ai envie de mettre toutes ces choses sur Internet et pour pouvoir m'aider à transmettre mon amour pour les sciences. Et voilà, après, je n'ai pas la prétention de faire devenir ça mon job à temps plein, mais quand j'ai un peu le temps pendant le week-end, j'essaie de développer ça un petit peu en parallèle et on verra où ça nous mènera. Si en Allemagne, en particulier dans mon institut, on a des longs projets de thèse, plusieurs années, au-delà des 5 ans, donc j'espère qu'entre-temps, ce petit projet parallèle aura l'opportunité de grandir et d'inspirer des gens à s'intéresser aux sciences en général, mais aussi aux céphalopodes, qui sont des créatures qui me passionnent.
Avec autant d'activités et de choses à faire, j'imagine que tu ne dois pas trop t'ennuyer pendant ton confinement. Car effectivement, Mathieu, comme la moitié des Homo sapiens, tu es aujourd'hui confiné. Est-ce que tu as un ressenti sur l'état des choses avec ton regard de futur chercheur, de biologiste ou même ton sentiment personnel?
Ouais. Alors déjà, tout de suite, j'ai dit confiné avant, mais c'est vrai qu'en Allemagne, on n'est pas confiné comme en France. Donc, on trouve à Francfort-sur-le-Main en ce moment, et en Allemagne, on est en... J'aime appeler ça le pseudo-confinement, où on a le droit de sortir. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une justification pour pouvoir sortir, aller prendre l'air, ce qui est très important. Et le seul problème, c'est que voilà, on ne peut pas être en groupe plus de deux personnes et grande partie des magasins sont fermés. Donc, ça pousse déjà de base les gens à rester chez soi. Mon ressenti par rapport à tout ça, j'ai des sentiments très contrastés par rapport à la situation du SARS-CoV-2. Du point de vue de ma recherche, c'est un peu préoccupant. C'est pas extrêmement grave non plus. J'ai accès au laboratoire, j'ai accès à mes animaux. Mais voilà, on doit faire extrêmement attention. Les provisions pour les animaux sont une priorité en ce moment. Et le staff qui s'occupe de maintenir les animaux en vie ont un métier qui est essentiel en ce moment. Et j'ai très peu d'interactions avec eux parce que ils doivent vraiment n'avoir aucun contact avec d'autres personnes. Ce sont vraiment ces personnes-là qui ne peuvent pas prendre de risque de tomber malade. Notre priorité en ce moment, c'est vraiment maintenir nos animaux dans de bonnes conditions. Et voilà. Après, mon travail est un petit peu ralenti parce que je suis un expérimentaliste. Je n'ai pas beaucoup de données à analyser chez moi. En contraste, il y a des théoréticiens, je pense que je dis comme ça en français, des théoréticiens de notre institut qui travaillent tout le temps sur ordinateur, qui font des modèles, etc. Et eux peuvent tranquillement travailler chez eux. Moi, en tant qu'expérimentaliste, il n'a pas encore assez de données à analyser chez moi. Ben, je suis un peu bloqué par le fait d'avoir un accès limité au laboratoire. Donc ça me ralentit un petit peu dans cette situation. Pour ce qui concerne ma vue sur la situation en général, c'est une situation assez étrange. Je dirais encore plus ici en Allemagne, où on a le droit de sortir, le droit de faire beaucoup de choses, mais en même temps, on n'a pas vraiment le droit de faire beaucoup de choses. Il y a un peu cette sensation d'être entre deux eaux, où on ne sait pas exactement où on est, et cette incertitude est très importante, et je pense que on s'adresse à mon point de vue et mon opinion sur la chose, mais les gens ont du mal à accepter le fait qu'on soit dans une situation d'incertitude, et l'incertitude c'est très très important en science, et surtout dans une situation comme ça, le fait qu'on ne sache pas où ça va aller, ça doit nous rendre encore plus prudents sur la situation, mais souvent les gens ont du mal à accepter que des scientifiques viennent leur dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se développer et on doit être le plus prudent possible. Et je trouve ça très fascinant. C'est horrible à dire, je pense, un petit peu dans ce genre de situation et vu le nombre de morts, que ce soit fascinant. Mais je pense que ça l'est d'un point de vue sociologique de voir les différents comportements dans la société par rapport à ça et le rôle des scientifiques dans ce genre de situation. Pour moi, c'est très intéressant. Je n'ai pas vraiment d'idée où ça va aller. Je pense que le plus important, c'est vraiment rester chez soi, mettre des masques quand on sort, avoir des bonnes habitudes d'hygiène et on fait ce qu'on peut pour que les choses s'améliorent.
Eh bien, merci infiniment Mathieu pour toutes ces réponses. Un lien pour tous les curieux de céphalopodes et de vulgarisation scientifique en général. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne du Dr Nemo dont l'adresse sera disponible sur le site du Labo des Savoirs. Encore merci à toi Mathieu.
Je t'en prie, ça a été un plaisir.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour toutes nos actualités, ainsi que sur labodessavoirs.fr pour retrouver cette émission et les précédentes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission inédite du Labo des Savoirs et merci de nous avoir écoutés.
walking in the midnight sun.
Suck it up again, please. Yes, I do pretend. Same sweet smile, dagger in my hand, sweet. Honey too sticky, might get caught up. I'll get caught up, I'll get caught up. Melody B, sweet silly summer's always free. I wish that you're gonna keep sipping. When I need the melodies, they're gonna keep sticking. The phrases, phrases stuck up in the clouds, and I smile in amazement. Intricately intrigued by my efficient arrangements. Visually the theme and your way of engagements. Visually esteemed, I can say that you made it. Sweet, my orbiter. All them bad vibes gonna make you sicker. All them bad minds gonna make you slicker. All them bad times gonna make skin thicker. Sweet, the sound of illusion and a ray of confusion with all this inclusion.
Babies getting played like wah wah. Strip the cover, reveal like voila. Magic, magic, sky turns guava. Sunsets, lioness and all is getting hungry. So she's out hunting, poachers close by. But no, she's not dumb, she sees they strayed off. This is pride country, this is lion country. This is my country, man. And you know my country, man. Bold move, leave you buried where you currently stand. That's just facts, don't take it personal. Monica is queen, she deserves the throne. Never deserves the throne. Unless it's mealtime, then she's lurking slow. Run it back, run it back. Never deserves the throne. Unless it's mealtime, then she's lurking slow. To the flowers.